Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à l'arme nucléaire et au débat ouvert ces jours derniers à New York et qui se poursuivra en juin et juillet prochains. Pour certains, l'objectif est ambitieux, pour d'autres, utopique. Il s'agit rien de moins que de débarrasser le monde des armes nucléaires sur fond de traités visant à interdire ces armes, comme ce fut fait pour les armes bactériologiques et chimiques. Un processus qui promet de prendre du temps, qui a été initié en décembre dernier avec le vote de 123 des 193 pays membres de l'ONU d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies visant à l'ouverture de négociations sous l'égide de pays comme l'Autriche, le Brésil, la Suède ou l'Irlande. Processus auquel sont opposés les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, détenteurs officiels de l'arme nucléaire. États-Unis, Russie, France, Chine et Royaume-Uni boycottent ainsi les négociations. Regard sur le débat autour de l'arme nucléaire avec nos invités, l'amiral Alain Coldeville, président du comité d'études de défense nationale et directeur de la revue Défense nationale. Bonjour.
Bonjour.
Éric Danon, directeur politique adjoint au ministère français des Affaires étrangères, ancien ambassadeur pour le désarmement à Genève. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Marie Collin, chercheur associé au GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Bonjour.
Bonjour.
La conférence qui vise à négocier un traité d'interdiction des armes nucléaires a donc commencé sans la participation des 5 membres permanents de l'ONU, détenteurs de l'arme atomique et d'une vingtaine de leurs alliés. Est-ce que c'est une conférence vouée à l'échec et qu'est-ce que l'on peut dire de l'argumentaire des pays initiateurs de ce processus de négociation ? Éric Danon.
C'est un processus ancien, initié par un ensemble de pays et la société civile, ensemble de pays qui estiment depuis des années que le désarmement nucléaire va beaucoup trop lentement et qui ont à de nombreuses reprises estimé leur frustration devant ce qu'ils considéraient être le blocage du désarmement nucléaire dans le monde. Et donc progressivement est venue l'idée qu'il fallait faire un traité d'interdiction. Mmh. Ce long processus a abouti à une première séance de négociation, il y en aura d'autres. La première s'est tenue du 27 au 31 mars dernier à New York. Vous avez dit que les 5 n'y étaient pas, non seulement les 5 n'y étaient pas, mais aucun nucléaire n'y était, ni l'Inde, ni le Pakistan, ni évidemment la Corée du Nord et Israël, si l'on suppose qu'Israël a des armes nucléaires. Et vous avez dit un peu rapidement que les alliés non plus n'y étaient pas, c'est vrai. C'est-à-dire que aucun pays sous parapluie américain n'y était, à l'exception pour l'OTAN des Pays-Bas. Mais il faut noter que 2 pays très anti-nucléaires comme le Japon et l'Australie n'y étaient pas non plus. Donc il est significatif que tous les pays sous parapluie pratiquement n'étaient pas présents. Donc voilà, c'est une première séance de négociation. Évidemment, comme Jean-Marie Collin y était, il peut nous raconter l'ambiance qu'il y avait. Et l'idée, vous avez dit, les négociations seront longues. Ce que l'on peut dire de cette première séance, c'est que une grosse majorité, quand même, se dégage pour que les négociations soient courtes, que le texte soit adopté rapidement et que, justement, on évite certaines ornières du multilatéralisme qui consiste à prendre un temps infini pour émettre un texte.
Jean-Marie Collin.
Effectivement, j'étais la semaine dernière à New York pour participer à ces négociations avec la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. C'est vrai qu'il n'y avait que les Pays-Bas qui étaient là en tant qu'État membre de l'Alliance Atlantique. Le Japon est simplement venu quelques heures faire une déclaration, dire que, pour une fois, c'était pleinement honnête, disant en affirmant que de bonne foi, il ne pouvait pas participer. Donc c'était vraiment pleinement honnête parce qu'il ne croyait pas à ces négociations. Il faut souligner qu'il y avait une dizaine d'États européens quand même s'ils ne sont pas membres en fait de l'OTAN ou couverts par cette dissuasion, sont bien aussi intégrés à l'intérieur, au cœur de l'Europe et en cas de conflit seraient au cœur de ce futur conflit. Il y avait une délégation de l'Union européenne, ce qui n'est pas quand même sans compter. Et puis, on avait quand même 132 États qui étaient présents. Donc, c'est une large majorité du monde qui était là pour travailler justement sur ce futur processus d'interdiction des armes nucléaires, sachant que l'ambiance fut positive, ce qui est sans doute est assez logique, puisque c'était une majorité des États qui étaient là pour travailler ensemble.
C'était d'une certaine manière un entre-soi tout de même.
Pas forcément, puisqu'il y avait quelques États qui ont des interrogations. Je dirais même les tenants et les porteurs de cette initiative, comme la Suisse ou les Autrichiens, par exemple, et les Iraniens qui ont autre chose à apporter, ont un certain nombre d'interrogations. Certains étant pour un texte assez court et limitatif. D'autres souhaitant inclure un certain nombre de choses de manière un peu plus complexe. Donc, c'était un entre-soi pour travailler ensemble et pour faire avancer les choses. Ça, c'est une certitude. Je remarque qu'il y a eu beaucoup d'appels du pied envers tous les États qui n'étaient pas présents, des appels directs et indirects. Et puis, pour avoir rencontré un certain nombre de délégations non présentes, du moins à cette conférence, mais qui sont présentes à quelques dizaines ou centaines de mètres selon la localisation de leur mission, tous ont suivi avec beaucoup d'attention directement derrière le site web de la télévision de l'ONU cette conférence. Et puis, on sait qu'un certain nombre de diplomates sont venus, des Roumains, des Bulgares, des Italiens, participer au fond de la salle, quelques heures. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que ces États ont participé, mais ils sont venus voir un peu ce qui se déroulait pour sentir aussi et voir qu'il y avait une volonté d'avancer pour finalement faire en sorte que les armes nucléaires puissent être interdites et qu'on puisse avancer face à ce problème de sécurité mondiale.
Alain Colduffy.
Oui, moi je dirais en tant que plutôt spécialiste des affaires de défense et de sécurité que d'une part quand on regarde la défense de la France, on construit un outil dans le temps long. Le nucléaire vient de 1956 et quand on regarde les évolutions, ce sont des évolutions à 20 ou 30 ans comme dans tous les autres armements. La deuxième chose, c'est que on a parlé de course au désarmement. Je ne sais pas si c'était un lapsus ou en tout cas révélateur. La France a déjà fait sa course au désarmement. En 1995, elle a supprimé sa composante terrestre, elle a supprimé un tiers des sous-marins nucléaires, elle a supprimé un tiers de sa puissance aérienne, sans aucun résultat. Et il faut en tenir compte. C'est-à-dire que les autres étaient bien contents de nous voir désarmés, mais ça n'a pas fait avancer les affaires d'un poil. Et quand on regarde bien qui est à l'initiative, c'est un certain nombre de pays qui n'ont pas l'arme nucléaire et un certain nombre de pays qui ont des arrière-pensées politiques pour nous priver, nous Français, de l'arme nucléaire. Eh bien, je crois que, alors qu'en 1994, on avait mis dans le scénario S6, c'est-à-dire le dernier scénario, l'hypothèse d'une remontée en puissance de la Russie et puis d'enjeu qui pourrait être retourné vers une guerre froide. En 2017, on peut plus le faire, et c'est la raison pour laquelle, de tous bords politiques, on est en pleine campagne électorale, il n'y a pas une voix discordante sur le fait que nous ne devons pas participer au désarmement nucléaire, nous devons maintenir à un niveau de stricte suffisance nos forces, et avec ça, je pense qu'on peut assurer la sécurité des Français.
Jean-Marie Collin.
Là, c'est bien une conférence qui a pour but d'interdire les armes nucléaires. On ne demande pas à la France de venir avec un programme pour désarmer. On demande à la France déjà pour venir pour écouter. Déjà, c'est quelque chose de totalement différent. Donc, de faire preuve de bonne foi dans le cadre de l'article 4 du 6 du TNP qu'elle a signé. Donc, c'est vraiment différent. On n'est pas encore dans cette phase où, effectivement, la France a fait un certain nombre de choses pour désarmer, au sens propre du terme, retirer certains arsenaux nucléaires. On lui demanderait de venir, écouter, expliquer pleinement sa position, prendre conscience de la position des autres pour avancer, par la suite, dans une deuxième étape sur le désarmement nucléaire. Mais si la France faisait ce pas, elle peut amener d'autres États. On sait que les Chinois, même s'ils sont plutôt favorables aussi à une action progressive comme les Français étape par étape ou du consensus, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord, étaient à la limite de venir, par exemple. Ça aurait pu aussi encourager les Indiens, les Pakistanais. C'est ça qui est reproché en fait à la France, mais aux quatre autres, à minima du P5. Hein. C'est quand même assez exceptionnel de se dire que les cinq membres du Conseil de sécurité de l'ONU n'étaient pas présents pour une telle conférence qui recouvrait autant de monde sur un sujet aussi important. C'est ça qui est assez incompréhensible. Même s'ils ne sont pas d'accord, c'est pas normal de ne pas avoir été présent dans la salle pour en discuter avec ceux qui veulent avancer. C'est comme ça que la diplomatie, elle doit avancer, avec des États qui sont pour quelque chose et des États qui sont contre, pour arriver à faire émerger la meilleure des solutions. C'est ça le grand reproche qui est fait, en fait, aujourd'hui, à ces États-là.
Qu'est-ce que l'on peut dire?
Pourquoi stigmatiser la France, oui? Vous avez dit encore, et vous avez dit vers un désarmement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller discuter simplement, il s'agit d'aller discuter en vue d'un désarmement.
Oui, c'est l'obligation du TNP.
Cet agenda caché, il est refusé par les puissances du P5, donc par la France, commencer par convaincre les autres. J'imagine pas notre futur président de la République aller convaincre le président chinois de se mettre à la table des négociations, comme vous semblez le croire.
Pourquoi?
Quand vous parlez d'agenda caché, de quoi parlez-vous, Alain Colduffy?
Non, parce que M. Collin a dit encore, et après il a dit en vue d'eux.
Oui, bien sûr.
C'est ce que j'appelle un agenda caché, qui n'est pas caché, qui n'est pas secret, mais qui est l'agenda des négociateurs pour amener les membres dotés vers le désarmement. Nous, on a déjà des armées, et que cet agenda caché ne participe pas de notre politique, pas plus que de celle du Royaume-Uni, de la Chine, de la Russie et des États-Unis.
Quel est le degré d'unité du fameux P5 que nous évoquons depuis le début de cette émission par rapport à cette conférence et à ce processus de mise en place d'un traité? Est-ce que il y a un véritable degré de concertation? Comment est-ce que les uns et les autres, où chacun se positionne de façon totalement individuelle à l'école du fil?
Moi, je peux vous dire qu'au plan strictement de la défense, il n'y a pas d'unité. Chacun raisonne comme dans tous les domaines en fonction des intérêts nationaux. Il se trouve que les pays du P5 arrivent à la même conclusion, sans doute par des cheminements différents, et c'est ce qui devrait interpeller un petit peu ceux qui voudraient nous amener à la table de négociation. De négociation, j'ai bien dit, c'est que des gens aussi différents que les Chinois, les Américains, les Anglais, les Russes et les Français, pour pas parler des autres pays dotés, arrivent à la même conclusion. À mon avis, on n'a pas raison contre le reste du monde.
La question du désarmement, les puissances nucléaires affirment vouloir désarmer. Dans le même temps, ce que l'on constate, c'est que l'heure est plutôt pour les Américains, les Russes, les Britanniques, les Français, de moderniser leurs arsenaux. Est-ce que on peut parler, comme cela est dénoncé d'une certaine manière, d'hypocrisie, Éric Danon?
Derrière la question du désarmement nucléaire, vous avez deux grandes approches. Celle des pays nucléaires et des pays sous parapluie qui ont tendance à considérer que le désarmement ne peut être qu'une conséquence de l'amélioration du contexte stratégique. Et d'un autre côté, vous avez un ensemble de pays, globalement ceux qui étaient à New York, qui considèrent que le désarmement nucléaire doit se faire indépendamment du contexte parce que l'arme nucléaire serait condamnable en elle-même et devrait être abolie en elle-même, comme ça a été le cas pour les armes chimiques ou les armes biologiques, avec les résultats concrets que l'on sait, mais enfin bon. Et ce sont deux conceptions qui s'opposent depuis pratiquement que l'arme atomique existe. Depuis les années 50, les antinucléaires ont deux grands reproches à l'arme atomique. Elle est à la fois extrêmement dangereuse et, à bien des égards, ils la considèrent comme inutile. Et l'argumentaire revient systématiquement sur la dangerosité et puis sur l'inutilité, c'est-à-dire la délégitimation de la dissuasion nucléaire. Et donc, on mouline ces arguments depuis bien longtemps. D'un autre côté, vous avez les États nucléaires et les États sous parapluie qui considèrent que la dissuasion nucléaire a eu un effet stabilisant et qu'à bien des égards, elle garde cet effet aujourd'hui dans un monde extrêmement complexe, extrêmement dangereux, etc. Et donc, ils considèrent que le désarmement ne peut être que la conséquence d'une amélioration du contexte. Dans la réalité, si l'on regarde ce qui s'est passé en matière de désarmement, c'est assez juste. C'est-à-dire que les Russes et, disons, les Soviétiques, puis les Russes d'un côté et les Américains, ont considérablement baissé leurs arsenaux au fur et à mesure que l'ambiance entre les deux pays s'améliorait. Quant à la France et à la Grande-Bretagne, le désarmement a eu lieu, grosso modo, une fois que la question de la séparation de l'Europe en deux a été réglée, entre guillemets. Donc une amélioration du contexte. En revanche, tant que vous n'avez pas d'amélioration du contexte entre l'Inde et le Pakistan ou entre les deux Corées, on voit bien que la tension ne permet pas, entre guillemets, le désarmement nucléaire. Donc, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, y a-t-il une chance, une probabilité que les pays nucléaires considèrent que le contexte est favorable au désarmement? Aujourd'hui, pas tellement, pourrait-on dire, mais on ne sait jamais. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des acteurs sur la scène internationale comme Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping. On va voir comment ils se parlent entre eux. Vous avez la première rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump
qui vient d'avoir lieu.
Nous allons bien voir les conséquences concrètes de cette rencontre. Entre Vladimir Poutine et Donald Trump, on va bien voir comment ça se passe. Peut-être qu'ils arriveront à se mettre d'accord, peut-être pas. Mais il est bien évident que ces leaders internationaux, à ce stade, ne vont pas être particulièrement impressionnés par une conférence de négociation d'un texte à New York. Bien évidemment, ils ont d'autres préoccupations en tête. Enfin, un mot sur le fait que ce n'est pas réellement une négociation d'un traité de désarmement au sens qu'elle entraînerait un processus de désarmement. C'est un traité d'interdiction qui est visé par les pays et il poserait, une fois sorti, le problème évident de savoir si un pays doté, un pays nucléaire, pourrait rejoindre ce texte et les conditions par lesquelles il pourrait rejoindre ce texte, puisque le texte interdisant la possession, il est bien évident qu'il y a un problème de sas d'entrée pour un pays nucléaire pour rejoindre un texte de cette nature. Tout cela sera négocié entre les participants. Jean-Marie Collin dit une majorité du monde. C'est une majorité, c'est vrai, en nombre de pays. C'est pas une majorité, on pourrait contester, en population, par exemple. Si vous regardez les pays qui n'y sont pas, puisqu'il y a la Chine, l'Inde, les États-Unis, la Russie et les pays sous parapluie, vous avez plus de 60% de la population qui n'est pas à la conférence, pourrait-on dire. Alors évidemment, à l'ONU, c'est un pays, une voix. Mais vu la taille des pays, on peut dire que plus de 60% en réalité de la population mondiale n'est pas représentée à cette conférence et que les pays non représentés représentent 85% du PIB mondial. Donc on n'est pas tout à fait dans simplement un pays, une voix, mais évidemment, il faut prendre en compte ce qui se passe à New York comme un élément important par rapport à la problématique nucléaire dans le monde.
Alors, des négociations, il y en a beaucoup. Je pense au traité de non-prolifération. J'aimerais comprendre comment le processus de négociation, comment est-ce qu'il s'inscrit, ne serait-ce que par rapport au fameux TNP. La dernière conférence en 2015 était un échec. Est-ce que c'est l'explication pour ce qui s'est passé la semaine dernière à New York, ces négociations? Bref, j'aimerais comprendre comment l'un et l'autre se situent par rapport à l'autre, Jean-Marie Collin.
C'est vrai que 2015 a été un échec, 2010 a été une réussite, donc tous les 5 ans il y a une conférence de révision, entrecoupée à chaque fois de 3 conférences qui préparent cette révision, donc dans un mois, un petit peu moins d'un mois, on aura la première conférence qui va préparer cette grande conférence en 2020. Vous pouvez avoir des réussites, vous pouvez avoir des échecs, pour autant, c'est pas forcément suivi d'effet. C'est-à-dire que même quand il y a consensus, même quand il y a des étapes qui sont demandées, qui sont validées par les États qui possèdent les arsenaux nucléaires, ces étapes ne sont pour autant pas réalisées. Au cours des 7 années qui nous séparent de 2010, de la conférence qui a été donc un succès, il y a eu ces ensembles de réunions qui ont démontré qu'il existait un vide juridique au sein du TNP. Alors, c'est contesté par un certain nombre d'États, ceux qui disposent de l'armement nucléaire ou qui sont membres d'une alliance nucléaire militaire, mais ce vide juridique, pour moi et pour d'autres, pour la société civile, pour une écrasante majorité du monde, indique qu'en fait, dans le TNP, il n'y a pas d'instrument juridique qui interdit les armes nucléaires au sens propre du terme. Tout comme dans le TNP, en fait, il n'y avait pas d'instrument juridique qui interdisait les essais nucléaires, d'où la création d'un traité d'interdiction des essais nucléaires. Tout comme dans le TNP, il n'y a pas d'instrument juridique qui interdit la production de matières fissiles, d'où l'idée portée, entre autres, fortement par la France et les Canadiens pour créer un traité qui interdit la production de matières fissiles. Donc l'idée, c'est de rajouter ce traité d'interdiction qui vient s'encadrer dans le TNP et qui ne va pas exclure ou arrêter le TNP. Ça a été largement souligné la semaine dernière à New York. Pour bien dire que dans le préambule, des points seront indiqués comme quoi le TNP est véritablement le socle du régime de non-prolifération, ce qui permet de rassurer tout le monde. Donc ça s'inscrit là-dedans, ça s'inscrit dans la volonté de l'article 4 et de l'article 6 poursuivre de bonne foi des négociations pour aller en vue du désarmement nucléaire, justement pour aller en vue de ce désarmement dans lequel les États se sont engagés à réaliser. Pour revenir simplement sur la question de l'unité du P5, on remarque un peu qu'il y a une certaine schizophrénie quand même, puisque finalement, si la France et les autres possèdent des armes nucléaires, c'est parce que les autres possèdent des armes nucléaires. Et donc, c'est pour éventuellement se dissuader, donc menace d'emploi d'armes nucléaires, puisque c'est ça la base de la dissuasion. Donc, on a un problème de sécurité globale, et c'est quand même assez dommageable que, face à ce problème de sécurité globale, ces États ne décident de ne pas y aller ensemble à cette conférence de négociation d'un traité d'interdiction nucléaire pour essayer de trouver une solution pour faire avancer cette solution-là. Donc c'est vraiment ça qui est regrettable au niveau du P5, sachant simplement pour revenir sur le point de la population, effectivement il y avait une majorité d'États, effectivement il y a une majorité de la population mondiale qui n'était pas présente, mais je crois aussi que cette majorité de la population mondiale, comme vous le savez, on ne lui a pas demandé son avis pour savoir si elle était en faveur ou pas de la dissuasion nucléaire. On l'a pas tellement demandé aux Français, on pourrait dire tous les 5 ans on le demande en tant qu'élection présidentielle, mais à minima je pense pas qu'on ait demandé aux Chinois ou aux Nord-Coréens s'ils étaient en faveur ou contre la dissuasion nucléaire. Donc cet argument sur la population pour moi ne tient pas.
Alain Coldufy, pour terminer cette première partie des...
Je voudrais juste revenir sur un point qu'a cité l'ambassadeur Danon, qui est très intéressant, c'est que, en réalité, quand les Américains ont diminué leur armement nucléaire, on peut le dire maintenant, c'est après une évaluation des capacités de l'ex-Union soviétique à maintenir un arsenal nucléaire. Ils ont évalué le niveau maximal, ils l'ont proposé aux Russes qui ont accepté. Donc, ils sont passés de 20 000 à 8 000 et maintenant autour de 2 000, sachant qu'ils conservent tout au chaud, si je puis dire, parce qu'il n'y a pas eu encore le commencement d'un début de démantèlement du côté de Washington.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités, l'amiral Alain Coldefy, Éric Danon et Jean-Marie Collin dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique consacrée à l'arme nucléaire et au débat ouvert ces jours derniers à New York et qui se poursuivra en juin et juillet prochains. Nous retrouvons nos invités, l'amiral Alain Coldefy, président du comité d'études de défense nationale et directeur de la revue Défense nationale, Éric Danon, directeur politique adjoint au ministère français des Affaires étrangères, ancien ambassadeur pour le désarmement à Genève, et Jean-Marie Collin, chercheur associé au GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Éric Danon, on a terminé la première partie de l'émission sur la corrélation ou l'articulation entre ce processus de négociation sur un traité d'interdiction des armes nucléaires qui a démarré en mars à New York et le traité de non-prolifération. Comment comprendre le positionnement de l'un par rapport à l'autre ?
Le traité de non-prolifération est considéré par tous les pays comme fondamental. C'est vraiment la clé de voûte du système aujourd'hui. Et donc, tous les participants à New York ont bien dit qu'il fallait prêter la plus grande attention à ce qu'il n'y ait aucun point de contradiction, aucun point d'affaiblissement du TNP par le nouveau traité. Il faut donc qu'il soit rédigé, ce nouveau traité, de telle façon qu'il ne touche pas le TNP, pourrait-on dire. Et la frustration de nombreux pays qui étaient à New York vient du fait qu'ils considèrent que les États dits dotés, c'est-à-dire les cinq, ne désarment pas suffisamment vite. Or, l'obligation du TNP, c'est bizarrement rédigé, cet article 6, il s'agit de dire que les États dotés doivent négocier de bonne foi leur réduction des arsenaux dans le cadre du désarmement général et complet. Alors, est-ce que le fait de ne pas participer à la négociation de New York serait en contradiction avec l'article 6. Tous les juristes que nous avons consultés de par le monde disent non, il n'y a pas de contradiction parce qu'en fait, le texte qui est négocié à New York n'est pas un traité de désarmement au sens d'un processus de désarmement, mais est une norme d'interdiction. Ce qui est de nature juridique différente. À partir de là, il n'y a pas de contradiction avec l'article 6. Donc, il n'y a pas de problème à ce stade entre le TNP et le futur texte. Savoir si cette norme d'interdiction sera un renforcement ou pas, moi, je ne le pense pas parce que il faudrait pour cela que l'interdiction, même une fois que le texte est adopté, devienne une norme dite coutumière. Et probablement, elle ne peut pas le devenir au sens du droit international si aucun État nucléaire ne participe à l'élaboration de la norme ni ne suit la norme. Et donc, probablement, c'est un texte qui aura un impact, j'allais dire, presque idéologique dans le système, mais qui ne devrait pas bouleverser l'ordre juridique actuel.
Alors, Coldefy, vous souhaitez rajouter quelque chose et après ça, je souhaiterais qu'on passe à la vision américaine et la position de Donald Trump sur les questions.
Non, je crois qu'on a donné une tonalité plutôt juridique au débat et en tout cas l'articulation entre le TNP et puis les traités d'interdiction. Donc, il n'y a pas d'autre chose à dire. Tout a été dit et moi, je reste sur les positions que j'ai exprimées précédemment car il faut après se placer au niveau de la France et des Français et regarder ce que le prochain chef de l'État, chef des armées, est responsable de la sécurité de ses concitoyens, va avoir à décider. J'observe que, contrairement à ce que dit Jean-Marie Collin, les Français ont été consultés régulièrement depuis 50 ans, et depuis 50 ans ont approuvé la dissuasion.
Oui, c'est ce que j'ai dit, hormis peut-être les Français pour la présidentielle.
Voilà, un débat qui surgit à chaque campagne électorale pour la présidentielle. Les États-Unis, Donald Trump à la Maison-Blanche, procède à une révision de sa posture nucléaire. Dans un entretien en Financial Times, il y a quelques jours, Trump s'est dit capable de faire face à Pyongyang sans le truchement de Pékin. On aborde donc la question de la Corée du Nord. Fin mars, le secrétaire d'État Rex Tillerson déclarait pour sa part que la politique de patience stratégique était terminée en référence à plus de 20 ans d'échec et que l'option militaire était sur la table. Comment voir la position de Washington aujourd'hui à l'ère de Donald Trump en matière nucléaire. Jean-Marie Collin.
Bon, il faut voir que même Donald Trump est au poste de commande que depuis 3 mois, qu'on est aussi dans un jeu de pression diplomatique extrêmement fort. C'est aussi l'avantage de la diplomatie, d'essayer de placer des mots pour faire peur ou tenter d'impressionner. qu'évidemment, il ne veut pas dire que toutes les options ne sont pas sur la table. Ça signifierait par conséquent que la dissuasion ne peut pas fonctionner. Donc, il faut aussi tenter d'impressionner et puis supporter aussi ses alliés japonais et sud-coréens et puis tenter un peu d'influencer aussi les Chinois par le même coup. Donc, on est aussi dans un véritablement jeu de mots et de dialectique diplomatique. Aujourd'hui, en tout cas, tout le monde s'interroge sur la posture de Trump, à la fois sur quelles actions il pourrait faire, puisqu'on c'est véritablement l'inconnu. On est véritablement dans un régime ou une pensée instable qui peut aussi bien être, certains le supputent, d'arrêter la dissuasion nucléaire. Finalement, il avait dit il y a quelques mois, si j'ai des armes nucléaires, pourquoi je ne peux pas m'en servir? D'un air de dire, je pourrais m'en servir, mais aussi, si je ne peux pas m'en servir, pourquoi est-ce que j'en ai? Donc, je vais consacrer cet argent à autre chose. C'est ça qui crée l'instabilité, je dirais, et donc éventuellement une certaine surprise stratégique dans tous les sens du terme, qui est aujourd'hui dangereuse et qui peut faire basculer le monde dans un sens ou dans un autre aujourd'hui.
Alors, on reste sur la Corée du Nord. Après ça, on reviendra sur la notion de dissuasion nucléaire et de sa valeur aujourd'hui face aux actes de terrorisme. Mais finalement, les intentions de Pyongyang, quelles sont-elles? Est-ce que l'escalade est technique ou militaire, avec l'objectif finalement de pousser Trump à une négociation globale? C'est une question. Comment expliquer la succession d'actions provocatrices de la Corée du Nord? Et au-delà de cela, quels sont finalement les obstacles à une reconnaissance de la Corée du Nord comme puissance nucléaire? Éric Danon.
Ce que cherche Pyongyang aujourd'hui, c'est effectivement d'être reconnu comme un acteur nucléaire à part entière. Et plus il multiplie les tirs de missiles et les essais nucléaires, plus il montre son souhait d'être reconnu. Évidemment, être reconnu par les Américains depuis toujours, parce que c'est avec eux et eux seuls qu'ils veulent négocier. La dimension nucléaire a pris une importance vitale pour Kim Jong-un, à la fois en interne, pour des raisons de politique intérieure, pour des raisons de politique internationale vis-à-vis du reste du monde, pourrait-on dire, et comme moyen de pression par rapport à la Corée du Sud. Que va-t-il se passer? Vraiment, nul ne le sait aujourd'hui. Ce que l'on peut dire, c'est que la Corée du Sud a toujours été dans une optique de sanctions et de pression sur la Corée du Nord, pas dans une optique militaire. Et les Américains développent chez elles un système antimissile. En théorie, c'est pour protéger les bases américaines. En pratique, ça protège évidemment la population sud-coréenne. Mais problème, c'est que la Chine considère que ce déploiement antimissile pose problème à sa dissuasion, à elle. Et donc, une tension supplémentaire entre la Chine et la Corée du Sud autour du déploiement de ces missiles. La Chine, quant à elle, par rapport à la Corée du Nord, a toujours préféré la stabilité de la péninsule plutôt que sa dénucléarisation. Elle n'a donc pas fait les pressions que l'on peut imaginer qu'elle pourrait faire sur la Corée du Nord. Et en plus, elle n'a aucune envie de voir la frontière de l'Occident se rapprocher de sa propre frontière à elle, et la zone tampon, pourrait-on dire, que représente la Corée du Nord, l'arrange stratégiquement aujourd'hui. Mais en même temps, elle voit bien que son voisin du Sud, c'est-à-dire la Corée du Nord, développe un arsenal qui devient déstabilisant pour toute la région. Et donc, elle commence à dire que ça fait un peu trop. Et après le dernier essai nucléaire, on a eu une première sanction en réalité très faible sur l'affaire du charbon. La vraie sanction, le vrai benchmark, pardon, ce sera le jour où elle parlera du pétrole et des livraisons de pétrole à la Corée du Nord. On n'en est pas là, mais ce que l'on voit, c'est une montée en puissance de la Corée du Nord qui, d'un système un peu déstabilisant, devient maintenant un système agressif, et avec une évolution de la doctrine qui est d'ailleurs contradictoire. C'est-à-dire que, bizarrement, la Corée du Nord développe une curieuse doctrine nucléaire disant, comme tout système dissuasif, si on nous attaque, nous serons capables de répliquer nucléairement, mais en même temps, une doctrine extrêmement agressive vis-à-vis de ses voisins, du Japon, de la Corée du Sud, etc. Mais sans parler du nucléaire, mais en parlant du balistique. Donc c'est assez curieux, pas très stabilisé, pourrait-on dire, en termes de doctrine. Soit c'est défensif, soit c'est offensif. En Corée du Nord, on est sûr que ce soit défensif, mais on a une dimension offensive aussi. Et effectivement, Kim Jong-un multiplie les provocations verbales envers tous ses voisins aujourd'hui.
Alain Koldefi.
Juste un mot, on voit bien, pour revenir sur Trump, le moment qui vient de s'écouler depuis son élection, il n'y a pas de politique étrangère actuellement aux États-Unis. Je voudrais simplement un indicateur. Trump a décidé de proposer une augmentation de 10% du budget de la défense. Et en contrepartie, c'est pas, je ne sais pas si c'est en contrepartie, mais le département d'État voit ses crédits rognés de 29%. Il y a une incohérence qu'il est en train d'assumer. Il n'a pas de politique étrangère. Et donc, des pays puissants comme la Chine s'engouffrent. Et le jeu qui a été décrit vis-à-vis de la Corée du Nord est typiquement le moment où les Chinois peuvent, par courrier interposé, et même directement, peser sur les choix de Trump. Trump reviendra déjà. Vous avez vu qu'au Conseil de sécurité, il a sorti un excité, Biden, il a fait revenir le chef d'état-major interarmé, et on revient vers un processus plus, je veux dire, plus paisible et plus normal qui permet aux États-Unis d'exercer sa diplomatie avec un bras armé très fort, et non pas l'inverse.
Très rapidement, une remise en question de l'accord sur le nucléaire iranien, toujours à l'ordre du jour en ce qui concerne les Américains, où finalement, on l'avait bien compris aussi, ils n'ont pas été les seuls à décider, donc il faudrait que... Éric Danon.
Non, après avoir énormément critiqué cet accord par tweet interposé, Donald Trump ayant dit que c'était le pire accord que les États-Unis aient jamais signé, il en demande maintenant, au contraire, l'application intégrale à 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en cause de l'accord en tant que tel, mais au contraire, une volonté d'être très stricte dans son application. Ce qui montre que Donald Trump découvre, sans absence de respect de ma part, la complexité d'un certain nombre d'éléments de la vie internationale et lentement, effectivement, comme le disait l'amiral, on revient vers une ligne médiane et raisonnable aux États-Unis à ce stade en matière politico-militaire. On verra dans quel sens ça va évoluer, puisque, encore une fois, ils sont en pleine revue. Mais par rapport à l'accord iranien, il est clair que, dès à présent, il faut en constater les forces et les faiblesses, l'appliquer avec la plus grande rigueur, et la France l'a toujours fait, a été en pointe quant à son application, et déjà penser à la suite, puisqu'il faudra bien, à un moment, commencer à penser à la suite de cet accord, qui est un accord de nature temporaire. Mais on peut observer que c'est un accord que les Américains peuvent dénoncer à tout moment. C'est-à-dire que le Congrès a déjà refusé l'accord et le président américain signe tous les 6 mois ce qu'on appelle un waiver qui permet l'application. C'est-à-dire que au cas où il veut dénoncer l'accord, le président américain n'a rien à faire qu'à ne pas signer le waiver suivant. Il n'a pas à demander un vote du Congrès pour dénoncer l'accord. Donc, le prochain renouvellement va venir dans 2 mois et les Américains nous ont déjà dit que le président signerait le waiver, donc l'accord continue comme il était.
Alors, très rapidement, pour relier la question iranienne à la question nord-coréenne, est-ce qu'on peut tirer des leçons de l'accord nucléaire iranien pour le cas nord-coréen ?
Ça montre que la diplomatie marche, déjà. Ça montre qu'au lieu d'aller à la guerre, quand les grands décident véritablement de prendre leur téléphone, de consacrer du temps, des moyens, de l'argent pour discuter, de réaliser un certain nombre de pressions, quelles qu'elles soient, économiques, diplomatiques, auprès de l'État vers lequel on veut faire avoir un accord et auprès de ses alliés, ça marche. Donc c'est aussi là, peut-être qu'il faudrait arriver enfin à travailler auprès de la Chine, véritablement, arrêter d'avoir peut-être des résolutions qui entourent le problème et qui ne font pas, je dirais, un focus sur la réalité. L'ambassadeur Danon l'a dit, si on s'attaquait peut-être au pétrole, il y aura peut-être des choses qui bougeraient un petit peu. Évidemment, c'est compliqué. Ça a pris 12, 13 ans pour les Iraniens. On s'attend pas à ce que ça soit résolu en 6 mois avec la Corée du Nord. C'est une évidence. Mais c'est là-dessus, aujourd'hui, qu'on attend la France, l'Union européenne, pour pouvoir réagir fortement.
Éric Danon.
Nous avons été confrontés à deux grands cas. Nous sommes confrontés à deux grands cas de prolifération. L'Iran et la Corée du Nord. Ils sont de nature totalement différentes. L'Iran n'a pas la bombe, la Corée du Nord a la bombe. Rien que ça, c'est déjà, voilà. Ce que l'on voit, c'est que, comme l'a dit Jean-Marie Collin, la diplomatie et tout un système de pression a marché pour l'Iran, d'autant plus que l'Iran avait un souhait évident de se réinsérer dans la communauté internationale. Avec la Corée du Nord, c'est plus difficile parce qu'ils sont totalement isolés, mais ils vivent leur isolement relativement bien. Et pour eux, mais évidemment je suppose que là-bas c'est le royaume du Burwa, mais je n'en sais rien, mais en tout cas, ils ne montrent aucune envie de se réinsérer dans la communauté internationale. Et donc, le deal, pourrait-on dire, est plus compliqué. La deuxième chose, et je m'arrêterai là, c'est que tout cela reste quand même à chaque fois dans ce type de négociation un rapport de force. Il est bien évident qu'avec l'Iran, il a fallu que les cinq nucléaires soient ensemble et unis, plus l'Allemagne, plus l'Union européenne, mais il fallait que les cinq soient là. Et quand on voit par exemple ce qui se passe à New York, il est clair, mais je le dis non pas comme une critique, que si vous aviez eu en face de l'Iran l'Autriche, l'Irlande et le Mexique et la Suède, ça n'aurait pas fait bouger l'Iran. Eh bien, c'est la même chose aussi, malheureusement, pour la Corée du Nord. Il y a un moment où dans l'histoire, le rapport de force joue, et avec la Corée du Nord, ce sera forcément avec les nucléaires, en tout cas au moins la Chine et les États-Unis, que ça va se passer, et pas avec d'autres pays.
Alors, je rebondis sur la notion de rapport de force avec cette dernière question. Quelle est finalement la valeur de la dissuasion aujourd'hui face aux actes de terrorisme auxquels on assiste un peu partout dans le monde ? Alain Koldufi.
Je crois qu'il faut rappeler que la politique de défense de la France est la politique d'un pays qui est une puissance moyenne, qui a une vision globale des intérêts dans le monde. D'ailleurs, je crois que, je parle sous le contrôle de l'ambassadeur, il y a guère que le Vatican qui a autant d'ambassadeurs que nous dans le monde, en dehors des États-Unis, qui est dans un système d'alliance et qui avait, après la chute du mur, trois silos, en gros, qui étaient disjoints, celui de la dissuasion, plus jamais juin 40, celui de la protection, français, mais qui était sur un mode mineur, et celui qu'on appelait de la projection, qu'on appelle maintenant de l'intervention. Le fait nouveau, c'est que on a un terrorisme islamique exacerbé, qui respecte aucune règle, et dans le même temps, on a un retour des États-puissances. On a cité autour de la table les pays qui se dotent d'armes nucléaires, on n'a pas cité ceux qui se dotent d'outils, je prendrais les plus spectaculaires comme des porte-avions, il en croit dans tous les pays du monde, donc on a cette conjonction. Et les Français ont bien compris que la dissuasion, un rafale ne peut pas protéger d'un attentat dans le métro, mais un rafale va tuer des terroristes au milieu du Sahel qui peuvent venir dans le métro. Ça, nos concitoyens ont commencé à le comprendre. Il y a donc une cohérence globale dans laquelle s'insère la dissuasion, non pas en tant qu'objet unique, mais objet participant de la défense de la France et des Français, avec des capacités de protection et des capacités d'intervention à l'extérieur du territoire national. Cette cohérence, en fait, elle est comprise partout.
Jean-Marie Collin et Éric Danon.
La base de la dissuasion, c'est de dissuader des États. C'est une certitude. Ça marche ou ça ne marche pas. On ne peut pas le prouver effectivement scientifiquement, comme l'a rappelé l'ambassadeur Danon. Mais c'est de dissuader des États. Pour autant, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de réflexions qui émanent, pas qu'en France, sur l'idée éventuellement qu'un jour ça pourrait dissuader, ou on devrait aussi dissuader ou l'utiliser contre des groupes terroristes ou des états terroristes, même si la définition...
J'en ai jamais parlé et c'est pas du tout dans les projets.
Non, pas vous-même.
Il ne faut pas tirer des plans sur la comète, sur ce qui se passe en France.
Non, pas vous-même, mais ça a été cité dans le livre de Bruno Tertrais, Arrêter la bombe, je crois le chef d'état-major a clairement dit qu'il y avait une réflexion sur l'utilisation d'armes nucléaires contre éventuellement un jour des États type Daesh. Donc, c'est pas vous-même, ça a été noté tel quel. C'est une réalité.
C'est un chercheur. Les chercheurs doivent chercher.
Non, le chef d'état-major qui l'a dit, c'est pas un chercheur. Donc, ça montre bien qu'il y a une réflexion qui existe. Ce qui ne veut pas dire qu'elle se mettra en œuvre, mais en tout cas, certains réfléchissent à ça. La valeur, en fait, c'est de savoir, justement, est-ce que ça permet de dissuader ou pas, et contre qui l'utiliser. C'est tout l'un des problèmes, effectivement. On ne peut pas le prouver que c'est grâce à ça qu'on a eu la paix. Je crois qu'il y a eu les 60 ans très énormes qui ont été signés. Le discours de Schuman dans les années 50, la signature du CECA, traité commun charbon et de l'acier, était bien de dire... On va travailler ensemble avec l'Allemagne justement pour créer la paix. Donc ça montre bien qu'il y a une valeur aussi inter-européenne, et la création de communautés, de partage de culture, de partage de valeurs permet aussi d'avoir un certain nombre de choses qui apportent la paix et non pas dissuader, je crois qu'on...
Éric Danon, en guise de conclusion.
Comme l'a dit l'amiral et comme l'a rappelé Jean-Marie Collin, la dissuasion nucléaire, c'est fait pour dissuader des États et c'est une posture défensive par rapport à une attaque contre nos intérêts vitaux. Tous ceux qui disent « ça ne sert à rien parce que on a des attaques terroristes », c'est complètement idiot. S'il fallait critiquer parce que ça n'a pas empêché les attentats terroristes, alors on critiquerait la police et le renseignement. Il faut bien voir que l'objet, il est dédié à la défense des intérêts vitaux de la France. Il n'est pas du tout fait par rapport aux attaques terroristes. Est-ce que la dissuasion fonctionne ? On peut simplement constater que nous n'avons jamais été attaqués dans nos intérêts vitaux depuis que nous l'avons. Est-ce que, comme disait Jean-Marie Collin, c'est le seul élément qui a fait que nous n'avons pas été attaqués ? Sans doute pas. La construction européenne, l'OTAN, bien d'autres éléments ont joué, mais le résultat est là.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Éric Danon, je rappelle que vous êtes directeur politique adjoint au ministère français des Affaires étrangères et ancien ambassadeur pour le désarmement à Genève. Merci aussi à l'amiral Alain Coldefy, président du comité d'études de défense nationale et directeur de la revue Défense nationale, et Jean-Marie Collin, chercheur associé au GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi prochain.